Corps, amour, sexualité. Calibre, une émission en direct sur Radio Kaléidoscope.
Calibre, une antenne libre où poser des questions sans tabou ni jugement.
Tous les jeudis, de 20h à 21h, appelez-nous au 04 76 09 09 09.
Bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir Marty, bienvenue sur Calibre.
Alors, il est 20h, c'est Calibre, c'est la libre antenne sur Radio Kaléidoscope 97 FM.
Vous pouvez nous appeler au 04 76 09 09 09 et Calibre, comme chaque semaine, c'est une libre antenne qu'on espère sans tabou ni jugement. En tout cas, on fait le maximum pour et on essaie de parler du coup de sujets CAS, corps, amour, sexualité, tout ça au pluriel. Ce soir, à l'antenne, c'est Marty et Greg, à la technique, Alice et Laura. Et du coup, est-ce que ça va bien les techniciennes? Oui, ça a l'air de bien se passer. Je pense qu'en fait, on va faire une bonne petite émission. C'est l'avant-dernière de la saison. On voulait juste vous prévenir un petit peu. On reparlera, on va laisser ça pour la fin, mais on a un peu des idées pour la saison prochaine. Il y aura un peu du remaniement à Calibre.
Du changement et des surprises.
Du changement, des belles surprises. On va essayer de faire quelque chose qui fleure bon la rentrée. Mais peut-être qu'en attendant, on va s'écouter un petit Marilyn Manson, Tainted Love, juste pour le plaisir de profiter. Appelez-nous 04 76 09 09 09.
Yeah.
Voilà, c'était Taint Love de Marilyn Manson, une version incroyable quand même.
Toute douce pour commencer cette émission.
Et alors, ce soir, on avait envie d'aborder un sujet assez intime, assez peut-être un peu tabou. En tout cas, on avait envie de vous parler d'odeurs, de nos odeurs, de comment, qu'est-ce qu'on sent, comment on assume ou pas nos odeurs, qu'est-ce qu'on aime comme type d'odeur corporelle. Voilà, c'est vrai que c'est un sujet qui fait l'objet et de beaucoup de complexes à des moments. Ah tiens, là je pue un peu, est-ce que je sens bon, mais aussi l'objet de beaucoup de fantasmes, de désirs, aussi de, tiens, notre odeur à des moments, on peut aussi être à l'aise avec. Nous, on avait envie de raconter un peu comme ça là, certains témoignages qu'on a pu trouver ou nous envoyer ou nous donner ou nous raconter ces derniers jours là, autour de ces odeurs là qui peuvent aussi à des moments être rassurantes et pas que dans le côté tout ce qu'on nous bassine partout tout le temps là, qu'il faut tout le temps se laver, se parfumer, sentir la fleur et je sais pas quoi. Là, on avait envie là, de porter à l'antenne des témoignages de « Ah ben non, moi j'aime bien cette petite odeur indélicate, qui peut sembler indélicate, mais... »
Ouais, ben Marty, moi je suis super content que tu aies apporté ce sujet. En fait, j'avoue, je trouve que c'est un sujet passionnant. En fait, quand on se met à chercher un peu sur Internet, là, notre grand ami de tous les jours pour préparer des émissions, c'est vrai qu'il y a plein de ramifications. Et puis c'est vrai que, bon voilà, moi je sais que tu as trouvé plus des témoignages quand même de gens qui font la promotion des odeurs un peu naturelles, parce que c'est vrai qu'on a bien conscience de toutes les pubs pour les déos qui font craquer la peau et qui font sentir la vanille et tout. Du coup, ça, on sait bien comment ne pas sentir son odeur naturelle, on sait bien comment sentir le parfum, on sait bien comment sentir le savon. Mais c'est vrai que tu as peut-être trouvé deux, trois petits trucs concernant vraiment des odeurs perso et ce que ça peut évoquer. Et je crois que tu as même une copine qui t'a écrit un petit texte super sympa.
Ouais.
Est-ce que tu veux nous lire ?
Je vais le lire, oui. Ah, quel plaisir de se sentir passer ses mains sous ses aisselles après avoir bien transpiré et les porter à son nez, comme pour se rappeler à soi-même. Sentir que l'on est bien vivante, bien ancrée dans le réel. Glisser ses doigts sous son pantalon pour s'imprégner de l'odeur de son sexe. Frotter son nez le long de ses avant-bras après avoir pris le soleil. Ou contre ses mains qui gardent toujours un savoureux mélange de toutes les odeurs accumulées dans la journée. Chercher le petit pli, la petite zone, le recoin de peau qui possède toujours un parfum unique, inimitable et si personnel. Ces petits gestes quotidiens que j'accomplis souvent sans même m'en rendre compte me rassurent. Ils me donnent la sensation de me reconnecter avec mon corps, ma chair, mon intimité. Ce sont des plaisirs dont j'use et j'abuse et je les recommande vivement et sans modération.
C'est super mignon. Puis, enfin, en tout cas, moi, j'adore ce petit texte là que, en tout cas, moi, tu m'as lu un peu en avant-première hier. J'étais super content parce que, en réfléchissant à ça, ça me permet de voir à chaque fois quand est-ce que machinalement, en fait, on peut se sentir ou je peux me sentir ou voir, on peut voir les gens se sentir eux-mêmes. Alors, plus ou moins discrètement, dans la rue, dans le bus, dans des trucs comme ça. Une espèce de petit contrôle personnel sur comment on est, comment on va et tout. Et puis effectivement, il y a un mot qui m'a vachement marqué, moi, dans ce texte. C'est le mot d'intimité et d'intime. L'odeur de ses amis, l'odeur des gens qu'on déteste. Voilà, quoi, ces petits gestes-là de la vie de tous les jours. Et si on prend une petite seconde pour réfléchir au moment où on se sent, parce qu'en fait, je crois qu'il y a vraiment un côté machinal. Moi, je me suis rendu compte qu'il y a plein de moments où c'est vraiment machinal de se sentir. Et ben, il y en a plein dans la journée. Et puis, il y a plein de différentes odeurs du corps, en fait.
Plein de différentes odeurs du corps. Et puis, là, du coup, il y a le petit côté réconfortant de retrouver son odeur sur son oreiller, son odeur là de sentir ses aisselles, de sentir, ah tiens, dans ma culotte, qu'est-ce que ça sent. Et il y a un côté bien connaître son odeur que j'apprécie aussi, ce côté-là, là, de contrôler son odeur, mais pas dans un aspect normatif de, bon, est-ce que je pue pas trop, là. Non, simplement,
on peut le faire aussi des fois.
Ce petit côté-là de hop, on sent un peu, tiens, qu'est-ce que ça sent aujourd'hui sous mon aisselle, et pas forcément, enfin, Il peut y avoir ce côté de contrôle là, de oh là là c'est un peu abusé, je vais prendre une douche, et cet autocontrôle là existe aussi, et on régule tous et toutes un peu notre comment on diffuse nos odeurs et comment on a peut-être un peu honte à des moments d'imprégner un peu trop les autres de ces odeurs là, mais du coup il y a ce côté contrôle, il n'est pas forcément dans le côté abusé de jamais rien vouloir sentir. En tout cas, on a déjà bien suffisamment la pression à des moments pour ne rien sentir. En fait, à des moments, oui, ces odeurs-là, elles peuvent être réconfortantes, et puis on peut apprécier de les retrouver et de les connaître. Moi, ça m'évoque aussi tout l'aspect aussi de « ah bah tiens, je connais bien l'odeur de telle partie de mon corps, à un moment donné ça peut se transformer, est-ce qu'il y a quelque chose que je trouve anormal ou pas ?» Aussi de pouvoir se dire « ah bah tiens, là je sens pas comme d'habitude, est-ce qu'il y aurait un problème ?»
Un petit check-up en fait, il y a presque un côté, alors faut pas non plus rentrer dans complètement le médical, mais quand même par exemple, je pense que pour les garçons et les filles et toutes les autres personnes, voilà, savoir si on a une infection génitale quelconque, c'est souvent révélé par les odeurs aussi. Voilà, mais c'est vrai que c'est un sujet super intime, l'odeur de quelqu'un. Moi, je sais pas, ça me rappelle. Voilà, c'est ça. Il y a le côté des amis dont on aime l'odeur, il y a le côté des gens en fait qu'on ne supporte pas. Moi, ça me rappelle, voilà, des relations dans lesquelles en fait j'ai été bloqué par l'odeur de quelqu'un, enfin voilà, des choses super intimes comme ça. Et puis je sais pas, ça me rappelle aussi les bonnes discussions de travail où les gens qui te racontent comment ça se passe dans leur boulot et qui disent ah mais ma collègue elle pue et je sais pas comment lui dire et je sais pas si c'est normal et c'est vraiment difficile, et du coup en fait toute ce blocage là un peu de comment parler de l'odeur des autres et voilà quoi, ce rapport à l'intimité extrême des odeurs.
On avait quand même encore quelques témoignages là qui font un petit peu écho aussi à celui que je viens de vous lire, sur des témoignages, quelques petits témoignages qu'on a trouvés sur internet de personnes qui parlent de leur rapport à leur propre odeur et ces petits réflexes de sentir qu'est-ce qui se passe sous son bras. J'ai l'impression qu'il y a plusieurs personnes qui le font, moi je le fais, enfin j'ai l'impression que c'est ce côté rassurant là, moi ça me parle bien aussi de tiens mon aisselle, j'aime bien cette odeur, de sentir ah tiens là j'ai beaucoup transpiré, et c'est pas une odeur qui va me rebuter ou je sais pas quoi, c'est au contraire, c'est me dire ah tiens ça, là ça sent quelque chose que je connais bien voilà. Du coup d'autres petits témoignages. Qui aime bien sentir l'odeur de ses aisselles ? J'aime tellement la mienne, même quand ça pue, quand je me surprends des fois dans le bus à lever le bras pour les sentir.
D'aussi loin que je me souvienne, j'ai senti mes odeurs corporelles, sueur. Cela m'apporte une sorte de réconfort immédiat. Je connais au moins deux personnes autour de moi qui s'adonnent à ce comportement aussi. Peut-être que l'on sent mieux que l'on existe.
Bonjour, voilà, j'ai un problème, enfin je crois. J'aime sentir l'odeur de ma mouille. Je trouve que ça sent tellement bon. Je voudrais savoir si je suis la seule à faire ça. Non, il n'y a pas de problème.
Je pense que c'est pas la seule. Moi c'est vrai que ça, je suis en train de réfléchir en tant que garçon, là c'est marrant. Je me dis, est-ce qu'il y a des garçons qui connaissent pas l'odeur de leur sperme ? J'en doute un petit peu. Un autre témoignage, depuis tout petit, je suis très attiré par le sexe des femmes, notamment par les odeurs intimes. Certains trouvent cela sale, moi je trouve cela excitant. Suis-je le seul dans ce cas-là ?
Suis-je la seule à sentir mon odeur sur mes doigts après m'être masturbée ? Suis-je la seule à sentir l'odeur de ma petite culotte avant de la mettre au linge sale le soir ? Voilà, je suis une fille de 20 ans et je dois avouer que j'adore sentir ma propre culotte ainsi que celle d'autres nanas. Je suis folle du parfum qui s'en dégage.
C'est quand t'as fait ces recherches de témoignages, enfin moi j'en ai fait un petit peu aussi quand on a discuté du sujet. Enfin, en tout cas, moi, je vais juste parler pour moi, mais il y a quelque chose qui m'a vachement marqué du contrôle social toujours. En fait, quand les gens commencent à demander ces témoignages-là, il y a vachement tout de suite la réaction de dire ah c'est dégueulasse, pourquoi tu fais ça, et puis t'as vraiment des goûts spéciaux. Et voilà, moi je trouve ça super intéressant qu'il y ait cette approche-là, un peu de réflexion sur ce que ça nous apporte, les odeurs, quoi. Je sais pas, qu'est-ce qui t'a le plus marqué, toi, dans tes recherches?
C'est vrai qu'en recherchant un peu des témoignages comme ça, qui soient positifs, de personnes qui kiffent un peu les odeurs ou qui les aiment bien, et je suis tombée sur beaucoup de témoignages aussi... De personnes qui posent les choses sous forme de problème, de « ah ben en fait je suis pas à l'aise avec l'odeur de mes pieds, je suis pas à l'aise avec l'odeur de mon haleine, je suis pas à l'aise avec l'odeur de ma chatte quand on me fait un cuni, je suis pas à l'aise avec l'odeur ». Et du coup, plus posé comme ça sous forme de problématique, et puis les personnes en face disent « ah ben tiens, essaye tel produit, tu vas sentir bon ». Donc vraiment dans un aspect... l'odeur c'est un complexe, c'est un tabou, on va la cacher, la masquer, et puis on donne les solutions qui vont avec. Et c'est vrai que là, la plupart des témoignages que je vous lis, j'étais un peu... J'ai remarqué que toutes les réponses qui étaient faites à ces témoignages-là sur des forums, c'était « non mais t'es malade, comment ça tu renifles ta culotte, enfin t'es pas bien ». Alors qu'en vrai, là, de tous ces témoignages qu'on vous lit bout à bout, en fait, ils se font écho dans un truc quand même de « bah oui, en fait, sentir sa propre odeur et ses réflexes-là, beaucoup de personnes le font et ne sont pas dans cet aspect-là de trouver ça trop gore, de sentir quelque chose, quoi. »
Je ne sais pas si tu as déjà vécu en colocation ou s'il y a des gens qui habitent en colocation, mais en fait, moi, ça me rappelle quand... Quand un coloc ou une coloc ou un frère, une sœur, ses parents ouvrent la porte de leur chambre le matin, et en fait chacun a vraiment son odeur, et c'est vraiment quelque chose d'intime. Ou effectivement, quand quelqu'un a perdu une fringue dans la maison, je me souviens, j'ai un souvenir d'avoir le réflexe de sentir le vêtement et de savoir exactement tout de suite à qui il appartient, en fait. Pas forcément parce que, et puis la transpiration et que tout ça, mais c'est qu'il y a vraiment une odeur vraiment particulière, et on est capable, enfin moi en tout cas, cette fringue-là, j'ai été capable de savoir tout de suite à qui elle correspondait. Et puis il y a peut-être un petit témoignage que j'aime bien, là aussi, qu'on a recueilli sur internet. Si vous voulez parler de vos odeurs et des odeurs de vos colocs et autres, vous pouvez nous appeler 04 76 09 09 09. Le petit témoignage est le suivant. Avec mon amoureux, on est comme des petits animaux. On adore se humer partout, se respirer dans tous les recoins, même les plus intimes. J'adore le respirer. Parfois, je prends de grandes bouffées de lui, de sa poitrine, de son cou. Je me shoote à lui pendant de longues minutes. Et j'adore, peut-être même encore plus si c'est possible, qu'il me respire ostensiblement. Il me dit que je sens bon partout, même aux endroits traditionnellement délicats. Les aisselles, les pieds, le sexe. Pour nous, nous respirer, c'est très nettement aphrodisiaque. Voilà, moi je l'aime bien parce que voilà, c'est vrai que ça dénote une super belle intimité. Et puis c'est vrai que... Bon après, je ne vais pas rentrer dans les espèces de délire un peu naturaliste et tout ça, mais c'est vrai qu'apparemment, c'est quand même par les odeurs qu'il y a une espèce de sentiment de réconfort et d'attirance. Et du coup, il y a tout un jeu qui se joue là dans une espèce d'intimité à sentir l'autre, à aller vers l'autre, à rentrer dans sa bulle, quoi. C'est vraiment ça.
Bah c'est vrai que là, bon, on a commencé par vous parler de comment des personnes peuvent être à l'aise avec leur propre odeur et puis jouer de ça. Et là, on a plusieurs témoignages, en fait, de personnes qui nous racontent un peu aussi qu'est-ce que peut provoquer. Du coup, là, on peut rentrer dans une phase plus d'intimité avec l'autre et d'échange et de partage. Qu'est-ce que ça fait de sentir l'odeur de l'autre? Qu'est-ce que ça fait que l'autre nous respire? Est-ce qu'on est à l'aise avec ça? Et du coup, on a quelques témoignages là aussi qu'on a pu récupérer. Et puis, je vais commencer par, comme tout à l'heure, par aussi un témoignage d'une copine qui nous a envoyé ça il y a quelques jours. J'ai pensé pendant longtemps que les odeurs corporelles ne comptaient pas, franchement. Ou pire, je n'y pensais pas. Je ne me sentais pas impactée. Mais quand même, c'était dur de faire des cunis quand je n'aimais pas l'odeur du sexe de l'autre personne. Et puis un jour, l'odeur de quelqu'une qui me traverse autrement, de part en part, et chamboule mon rapport aux odeurs. Maintenant, je peux retrouver à qui est ce sweat à capuche noire oublié en le reniflant. J'aime pouvoir mettre mon nez dans les odeurs de celles que j'aime et qui ne sont pas là.
J'ai un autre petit témoignage. Il m'est arrivé dernièrement d'aller chez mon ami qui allait au boulot alors que j'étais chez lui. Il était tôt ce matin-là, je me suis glissé dans son lit, la chaleur des draps, son odeur sur l'oreiller et sur la couette. Orgasme garanti.
Je ressens un plaisir suprême à renifler les aisselles de ma compagne. Je l'embrasse très souvent sur cette partie du corps qui tient un rôle important dans nos rapports sexuels. Mais ce que j'aime aussi, c'est après l'amour, sentir notre sueur, notre odeur corporelle à tous les deux mélangés. Ça, c'est vraiment bon.
Je sais pas si t'as déjà fait ça, Marty, en fait, mais tu sais, quand tu pars en voyage aussi, et que tu reviens, et que tu ouvres ta valise qui revient de... T'es parti un peu n'importe où, et puis t'as un petit côté nostalgique du retour, et t'ouvres ta valise et tu mets ton nez dedans, parce qu'en fait, ça sent là où t'étais, ça sent les gens qui étaient là avec toi autour, et en fait, tout de suite, ça te rappelle les lieux, les endroits, les personnes. Et je sais que moi, ça m'est arrivé plusieurs fois et c'est réconfortant. Et en même temps, ça te rappelle vraiment, vraiment le temps parcouru avec des gens. Mm-mm. Autre témoignage, un jour, je suis arrivé à l'improviste chez une copine. Je l'ai surprise en pyjama. En réalité, un vieux jogging en coton molletonné, type training ample et tout doux. Ce n'est pas du tout une tenue sexy, mais il émanait d'elle une telle sensualité que j'ai eu une incroyable envie de lui faire l'amour. Je pense que c'est parce qu'elle sortait du lit et que ce jogging était en coton épais, était imprégné de ses odeurs corporelles. C'était tout bonnement fabuleux. Moi, je trouve marrant ce témoignage parce qu'il n'y a pas de... La personne dit jamais, en fait, qu'elle a vraiment senti la personne. Il y a plus... Le côté fantasme, en fait, de se dire, tiens, c'est un habit de nuit qu'elle doit porter souvent, cette personne. Et j'imagine que ça sent son odeur, et j'imagine que c'est des odeurs intimes, et c'est ça qui m'excite, en fait. Et j'aime bien ce rapport aussi à un objet et à la projection qu'on en a en termes d'odeur et en termes d'intimité.
Alors, un autre aussi. Il m'arrive parfois d'humer discrètement l'odeur d'une fille qui est à proximité de moi, sans même qu'elle s'en aperçoive.
C'est du vécu, ça?
Non, c'est un témoignage que j'ai trouvé.
Non, je te demande ça.
Moi, est-ce que c'est intrusif, ça, de tiens, on sent l'odeur de quelqu'un qui est à côté de nous dans le bus qu'on connaît pas comme ça et tiens, on trouve ça que ça sent bon.
Est-ce que c'est intrusif? Ouais, je sais pas. Ça dépend si on lui lèche le cou, peut-être que c'est un peu intrusif. Si on le fait discrètement, si on fait un grand. Comme ça, peut-être que c'est pas très classe, mais je sais que moi ça m'est déjà arrivé, voilà, de sentir l'odeur d'un garçon que je trouvais charmant et de me retourner et d'aspirer un peu pleinement par le nez. comment est-ce qu'il pouvait sentir? J'ai trouvé ça sympa.
Allez, un petit dernier. J'aime les odeurs intimes, sexe, fesses et selles. Je pense qu'une chatte doit sentir la chatte et non le savon antiseptique. J'aime renifler les petits strings sales de Maria. Ce cocktail subtil de mouille, de sueur, de pipi est un véritable nectar pour le nez.
Tout à la fois. Moi, je voulais peut-être juste terminer par un petit truc si on a le temps. Je ne sais pas.
On va prendre le temps. Ouais.
Tout le temps. C'est très bien. Moi, je suis tombé sur un long texte qui parle des différentes odeurs. Et il y a un petit truc qui m'a un peu. Voilà, là, on rentre vraiment dans le domaine intime. C'est un texte un tout petit peu long. Et ça parle de l'odeur de l'anus. Une odeur provenant de la région de l'anus nous différencie les uns des autres. Les animaux de la forêt nous détectent grâce à elle. Ça sent l'être humain. Ça sent l'anus des humains. Je trouve ça super drôle. Cette odeur s'imprègne dans notre lieu de résidence. Elle s'associe à une émotion de réconfort qui nous sécurise. Elle délimite notre intimité ou notre espace émotionnel. Notre logement est donc un lieu physique et un lieu émotionnel par notre odeur intime. L'odeur de l'anus joue un rôle dans la relation amoureuse. En général, nos odeurs corporelles sont reliées à nos émotions de faiblesse et de vulnérabilité. L'anus est la partie la plus intime de notre corps par le fait qu'elle est associée à la fonction de défécation. Nous vivons tous dans un grand sentiment de vulnérabilité en rapport avec celle-ci par les odeurs fortes que nos matières fécales dégagent. Vulnérable aussi parce que c'est une chose gênante bien qu'essentielle pour notre survie. En réalisant que notre partenaire peut détecter l'odeur de notre anus, on devient mal à l'aise. Cela signifie qu'on n'est pas prêt à partager notre intimité. Dans le cas contraire, C'est ce que l'on se, c'est qu'on se sent assez en sécurité pour un échange d'affection. L'odeur de l'anus de notre partenaire nous donne la sensation de faire partie de son intimité la plus profonde. Je crois qu'il n'y a pas de meilleur mot.
Voilà.
Je vous propose de rester en odeur de sainteté avec Las Curvettes Hit Me.
Toujours sur Calibre. Alors après avoir parlé autant de ces odeurs corporelles, on voulait quand même rappeler un petit peu. Enfin, moi ça m'évoquait aussi. Dans ces contacts intimes là, dans des contacts physiques, sexuels avec des personnes, à des moments, oui. Là, on a parlé beaucoup de plaisir. On avait envie de déballer comme ça des prises de plaisir liées aux odeurs. À des moments, oui, il y a des odeurs qui sont moins agréables où on n'est pas à l'aise avec. Une partie de notre corps parce que on a peur que cette odeur soit trop forte pour l'autre ou on est gêné de partager cette odeur-là avec quelqu'un d'autre. Alors du coup, moi j'avais envie de redire dans comment à des moments, quand on fait du sexe avec quelqu'un, les choses elles se discutent aussi de « Oh ben là non, j'ai pas trop envie que tu me lèches les pieds parce que… » Enfin, on peut dire aussi éviter de certaines zones du corps qu'on n'a pas envie de partager, que ce soit pour des raisons d'odorat ou pour d'autres raisons. On peut aussi aimer tel ou tel type de caresse pouvoir discuter de ça avec ses partenaires, de cette zone-là, je suis à l'aise ou pas, le discuter comme ça aussi.
Il y a toujours la notion de consentement et puis être vraiment toujours prêt à discuter. Quand on est quand même prêt à faire du sexe ensemble, d'une manière ou d'une autre, je pense qu'il ne faut pas avoir de fausse pudeur et puis c'est bien d'être capable justement de poser ses limites, quoi, de se dire là, en fait. Voilà, moi c'est marrant parce qu'en faisant la recherche, je suis tombé sur des personnes qui disaient « Ah ben en fait, ma partenaire, il y a des jours où c'est pas possible et j'ose pas lui dire d'aller se laver, j'ai pas envie de lui faire de fellation, j'ai pas envie de lui faire de cuni, j'ai pas envie de… » Alors je le fais pas forcément, mais du coup j'ai du mal à lui dire que là c'est vraiment difficile et tout. Je trouve que c'est important quand même d'arriver aussi à ouvrir sur ce sujet-là. Moi, j'avais un petit témoignage aussi que j'avais chopé sur un forum forum des ados. Et du coup, la fille, elle nous dit, y a des odeurs de transpiration plus fortes que d'autres. Et moi, par exemple, je trouve certaines odeurs corporelles de transpiration écœurantes. Et d'autres, au contraire, m'attirent. Donc, bon, ça doit dépendre des personnes. Il y a aussi ça aussi. Je pense qu'il faut être conscient que, voilà, il y a peut-être des odeurs qu'on aime plus et d'autres qu'on aime moins. Et il faut être capable de le dire, je pense.
Et c'est vrai que ces discussions, elles ne sont pas simples, je pense. Enfin, du coup, ces tabous qu'on peut avoir déjà dans la sexualité de manière générale, voilà, ça existe, hein, ce tabou-là de ne pas oser trop mettre le pied là, sur le terrain, de bon, raconter ce que j'aime, ce que je n'aime pas. Et cette histoire d'odeur, oui, ça touche vraiment à des choses intimes, quoi. Dire à quelqu'un, ah ben non, je ne veux pas mettre mon nez sous ton aisselle, là, comme ça, nanana. Enfin, oui, c'est pas simple. Alors, du coup, bah oui, mais en fait, ça, pour le bien-être aussi de soi, de ses limites, de comment on a envie de vivre ces partages-là corporels, et ben oui, ça passe aussi par discuter de comment on est à l'aise avec nos odeurs, comment on les échange, celles qu'on aime, qu'on n'aime pas, comment. Ça peut aussi se passer très, très facilement à un moment donné de dire, ah bah tiens, et si. Moi, j'allais prendre une douche, nanana.
Ouais, ça s'amène en douceur. Et apparemment, alors tu m'as appris quelque chose, il y a des gens qui sont tellement pas à l'aise avec leur odeur ou le goût de leur cyprine, du coup de la mouille ou de leur sperme, que, en tout cas, la grande industrie marketing et pseudo-pharmaceutique aurait développé un produit miracle.
Alors, je sais pas s'il y a des personnes qui utilisent ça, mais en effet, je suis tombée, donc. Par hasard, sur des pilules vendues pour transformer le goût et l'odeur de la mouille et du sperme aussi, parce qu'il y a la version agrume pour donner un arôme agrume à sa cyprine et un arôme pomme, je crois, pour transformer
l'odeur et le goût du sperme.
Voilà, c'est ça.
C'est bien genré en plus, c'est parfait. on ne sait pas si ça marche, hein, sérieusement. Alors moi, j'ai un peu, du coup, tu m'as parlé de ça, j'ai vite fait regarder, je ne sais plus de quelle molécule il parlait et tout. Du coup, j'ai regardé et avec voilà, des outils de recherche actuels, on va dire, Wikipédia et ses amis. Et en fait, la espèce de molécule dont ils font la promotion, c'est un espèce de glucose de base parfumée, hein, du coup, à des arômes synthétiques. Pamplemousse ou pomme. Du coup, moi, alors perso, j'avoue que je suis assez sceptique, mais je pense qu'ils sont capables de vendre des pilules comme ça. Enfin, voilà quoi, c'est comme presque, c'est comme un peu le préservatif aromatisé, sauf que c'est encore. Enfin, bon, là, on sait que ça marche, parce que c'est vraiment aromatisé et qu'on sait que ça a vraiment un goût de. Voilà, d'arôme, pas naturel d'ailleurs, en général. Là, la pilule que tu ingères, qui est en fait du sucre aromatisé, est-ce que ça va vraiment agir sur le goût de ta cyprine ou de ton sperme? On ne sait pas trop, hein.
Si vous savez, il faut nous le dire.
Vous pouvez nous écrire aussi kcas-libres@poivron.org. Le numéro de téléphone de Calypse, c'est le 04 76 09 09 09. Voilà.
Alors, on pourrait parler d'autre chose là que ces histoires d'odeurs maintenant. Ouais. Toi, t'avais ramené quelque chose là. Enfin, bon, on parlait là de l'été, de.
Bah,
tiens,
c'est l'été, on transpire, donc on a des odeurs. Mais
tiens, vu que c'est l'été, les vacances, qu'est-ce qui va se passer, nanana, on se prépare à quoi, à tomber amoureux, à faire du sexe sur la plage.
Bah c'est ça. Moi, je vous refais pas la une de tous les magazines féminins, masculins et autres qui sont en train de fleurir partout avec ces espèces d'injonctions à la minceur, genre la une de Cosmo, sexe, tradie ou crazy, à chacune son plaisir, femme actuelle, coaching minceur pour brûler les graisses avant l'été. Enfin voilà, tout ce qui permet, tout ce qu'on nous met en avant pour du coup être une bonne proie, pour attirer le chaland et puis être consommable. En gros, c'est un peu cette injonction à la sexualité, à chaque fois qu'arrive l'été, à chaque fois qu'on commence un peu à se dessaper parce qu'il commence à faire 35 degrés, que c'est Grenoble et qu'on est dans la pollution chaude et moite. Du coup, il y a tout ça. Et du coup, quand ce n'est pas dans des injonctions aussi directes, on nous vante les tenues sexy, super échancrées, les machins, les trucs, voilà, toutes les pubs qui sont prêtes à nous vendre un soda juste avec une meuf à poil ou des trucs comme ça. Et moi, ça m'a un peu perturbé. Je me dis, mais en fait, comme d'hab, en fait, l'été, on nous dit qu'il y a une certaine norme, on nous dit, bon, bah, l'été, vous allez baiser parce que c'est l'été que ça se passe, on est tout nu, on est chaud, on a un pic d'hormones soi-disant, et voilà.
Je pense qu'on a une pression à la sexualité déjà tout le temps, mais l'été, oui, ça s'amplifie un peu là. Ouais.
C'est un peu le summum, quoi. Ah, c'est ouais. La fête, on a plus de temps. Quand on a de l'argent, on part en vacances et puis on est encore plus dénudé que dans nos villes ou dans nos cambrousses habituelles. Et il y a un petit truc sympa, moi j'ai trouvé un petit texte sur le Nouvel Obs d'une meuf qui s'appelle Hélène Descomé qui dit 10 bonnes raisons de renoncer au sexe pendant l'été. Et en fait, ça m'a fait plaisir. Alors, c'est complètement potache. Mais ça m'a bien fait plaisir. C'est le sexe en été est inutile et chronophage. Alors oui, cette histoire de position du bretzel, ça peut paraître sympathique à première vue, mais dans l'absolu, le bretzel, c'est un truc qui se mange, et très franchement, en vacances, c'est toujours un peu l'heure de la bouffe, de l'apéro, de la sieste, des promenades ou de la baignade. On aura bien le temps de faire des trucs sexuels à la rentrée quand c'est tout ce qui nous restera pour oublier les emmerdements quotidiens. Voilà, ça c'est le premier conseil. Alors la nouveauté, c'est compliqué. Voilà, de rencontrer quelqu'un, de faire les premières approches. Pas envie de se sacrifier aux manœuvres d'approche hypocrite propres à la drague estivale, l'enthousiasme un peu forcé, la façade soignée, l'incitation à consommer. Alors la petite touche d'humour, parce que je crois qu'en fait elle a quand même réalisé son texte avec des témoignages d'internautes qui disaient un peu ce qu'ils ont vécu pendant l'été. Et là il y a le petit passage délicieux, on n'est pas trop fan des mycoses attrapées dans les toilettes du camping. Je crois que c'est une personne qui a dû lui raconter qu'ils n'avaient pas trop d'espace d'intimité dans le camping et du coup bah, ils se sont réfugiés dans les chiottes du camping
et ils ont chopé des mycoses
et vivent la mycose. La petite touche qui me fait bien marrer, moi, c'est on voit déjà l'autre à moitié à poil toute la journée et ça finit par couper l'appétit. J'aime bien. Petite considération socio-économique, on n'est pas assez riche pour caser ses enfants ailleurs. Ils sont donc là tout le temps. Et du coup, quand on a ses enfants à côté, et quand on a des enfants et qu'ils sont à côté, pas forcément facile de s'adonner au plaisir du sexe. Et alors, mention spéciale, ça c'est vraiment, l'amour aquatique est une supercherie. Je pense qu'on connaît tous les superbes images on peut parler de Sabrina Boys 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 qui sort ses nibards dans la piscine, des scènes érotiques. De tout genre qui se passe dans les jacuzzis et tout ça. Et là, le petit texte qui suit, les ébats en piscine ou en eau de mer sont une arnaque au goût de romans photo frelaté. Je sais pas si vous avez déjà essayé, je pense que c'est pas loin de la vérité, c'est totalement vrai. Déjà, le préservatif doit s'enfiler hors de l'eau, ce qui est très chic, on en conviendra. Ensuite, que l'on utilise ou non un préservatif, l'eau dilue les sécrétions naturelles et dessèche les muqueuses, effet râpe à fromage garanti. Sympa. Et puis bon, après il y a le sable, hein, le coup de « Oh chérie, viens, on va sur la plage. »
Baiser dans les dunes.
Baiser dans les dunes, et voilà, le sable dans l'arrêt des fesses, dans les vêtements, dans la bouche, crissant sur nos dents, dans les cheveux et dans les yeux, au moindre coup de vent, froid et humide la nuit, parsemé de bouts de coquilles de mollusques étranges, collé par milliers de grains au préservatif qu'on vient de faire tomber dans l'obscurité. Alors ça vous donne envie de l'amour l'été, tout ça, moi, moyennement, quoi. Voilà, du coup, un spécial dédicace à Hélène et à tous les internautes qui ont participé aux 10 bonnes raisons de renoncer au sexe pendant l'été. Par là même, sans peut-être trop le savoir, mais faire un espèce de geste un peu militant contre la pression à la sexualité qu'on nous afflige tout le temps. Voilà.
Très bien.
Peut-être aussi, alors j'ai pas lu le bouquin et je sais pas, bon j'en parle, allez. Apparemment il y a un livre d'un certain David Fontaine qui s'appelle No Sex Last Year, et donc c'est 12 personnes qui racontent leur mois sans sexualité. Alors je sais pas si c'est voulu ou pas, mais en tout cas il y a des témoignages sur des personnes qui disent que cette pause dans leur sexualité, ça leur a permis de un peu de se retrouver, de retrouver un peu leurs propres désirs, et puis après de savoir un peu s'orienter vers les personnes avec qui elles ont vraiment envie d'avoir du sexe, et du sexe, du sexe qui fait plaisir à l'un et à l'autre, et qui n'est pas en fait dans le cadre d'une espèce de sexualité instrumentalisée, ou en tout cas forcée, parce que c'est l'été, il faut baiser et tout ça. Du coup, je sais pas, peut-être que je vais me lire ça en roman de plage, voilà.
D'accord, tu nous raconteras.
Oui.
On va faire une petite pause en écoutant Clean Done, To the Underground. Toujours sur Calibre, sur Radio Kaleidoscope.
96.9 FM à Grenoble et partout ailleurs sur internet, k-libre.poivron.org. On vient d'écouter Client Down to the Ground. Et ben Marty, je pense que vous voulez faire un petit retour aussi sur la transgenre et la transsexualité en général, peut-être.
Alors, c'est vrai qu'à Calibre, on a déjà beaucoup parlé d'un point de vue, on va dire, enfin, on a déjà pas mal parlé un peu des enjeux liés aux questions de transidentité, de transsexualisme, aussi pour raconter un peu les réalités des personnes qui vivent ces identités-là, aussi les enjeux techniques, médicales, juridiques, politiques. On a un peu porté un peu à l'antenne des situations de personnes aussi qui vivaient ces identités-là, et puis des luttes qu'elles mènent, des situations qu'elles vivent, des oppressions qu'elles subissent. Et là, moi, je suis tombée sur... sur un texte qui m'a intéressée aussi en tant que personne qui souhaite être dans un soutien de ces personnes-là et être un peu militante dans ce domaine d'arriver à faire en sorte que ces identités-là ne soient pas exclues, ne soient pas opprimées. Du coup, là, J'avais envie de vous parler d'un texte qui s'appelle Petit conseil destiné aux personnes trans-friendly.
Et du coup, en fait, si je comprends bien, on a été un peu scolaire et puis là, on veut un peu se mettre les mains dans le cambouis et enfin, voilà, être bienveillant avec les trans et du coup, avoir un peu le retour d'une personne trans qui a écrit un texte pour savoir comment est-ce qu'on s'y prend pour pas froisser une trans quand on s'adresse à cette personne, savoir comment est-ce qu'on fait, parce que c'est pas forcément évident. C'est pas évident que les personnes qu'on croise soient trans. Les questions de le genre d'une personne n'est pas inscrit sur sa gueule. Et peut-être donner un peu des outils, des outils qui sont écrits par une personne trans qui nous permettent aussi d'avoir un petit peu un regard de l'intérieur et de comment on fait pour pas être des gros lourds.
Et c'est un texte que j'ai trouvé sur un blog qui s'appelle Vernis et Sécateur, à l'adresse pink.reverie.info, qui a été écrit par Élie Henry. Et du coup, on va pas tout lire forcément, mais disons qu'il y a trois parties où je me disais ça pourrait être intéressant là de rappeler ce petit béaba là de comment ne pas se retrouver en situation là d'être un peu relou, impoli ou carrément agressif parce que on fait pas des choses, enfin on fait pas comme il faudrait peut-être pour être bienveillant et poser des choses comme ça. Une première base qui est un truc important et qui se pose très très facilement et dans le langage, parce que quand on s'adresse à des personnes, qu'on parle de personnes, qu'on parle à des personnes, on va poser le il, elle, le monsieur, le madame, sur une question de vocabulaire en fait. Tout le monde ne pourrait pas forcément se sentir concerné par ces classifications-là. Et du coup, dans des situations de personnes trans, c'est une personne qui va choisir son genre social, donc de se faire appeler par tel ou tel prénom à connotation plutôt masculine, féminine, et du coup en souhaitant qu'on s'adresse à elle en disant il ou elle.
Du coup, à parler à la personne dans le bon genre.
Voilà, qu'est-ce que ce texte...
Et du coup, Élie Henry nous dit que c'est quand même bien important. Si on a un minimum de respect pour une personne, on lui parle... on lui parle dans le genre désiré. Même si vous savez que cette personne qui parle au féminin a un pénis, même si vous trouvez qu'elle ne ressemble pas à une femme du tout. Si vous avez un doute, demandez. Si vous ne savez pas comment désigner cette personne, il y a deux solutions possibles. Évitez d'avoir recours à des mots genrés, ce qui est faisable si on parle à cette personne, puisqu'on dit tu, mais qui est peut-être un peu plus dur si on parle d'elle à quelqu'un d'autre. Alors, on lui demande, tout simplement. C'est peut-être un peu la base, quoi.
Et c'est vrai que les plantages de « ah tiens, dire il » parce que « ah, à une époque, c'était il et maintenant, c'est elle », nanana, oui, à un moment donné, les erreurs existent. C'est possible de se planter quand on a dans notre entourage quelqu'un qui entame une transition. Oui, des erreurs existent. Après, la persistance de ces erreurs sur quelque chose de « ah ben non, en fait... je vais continuer à dire il parce que c'est il ou elle. Enfin, ça devient carrément agressif dans le refus de considérer la personne dans le genre désiré en fait.
Ouais, c'est même plus du manque de respect. C'est vraiment quelque chose de très difficile. Du coup, en fait, voilà, faut pas hésiter. Apparemment, il faut y aller. Il faut dire comment est-ce que je m'adresse à toi.
Une deuxième partie qui me semblait importante aussi de raconter et de parler à l'antenne de ce texte, c'est surtout tout l'aspect l'exotisation, l'intrusion, la curiosité, la fascination, le fantasme même, parce que du coup, voilà, il y a lié à la transidentité et comment à des moments, sous prétexte que telle personne là, qu'on côtoie, c'est une personne trans, ça va provoquer des choses qu'on ne ferait pas avec n'importe qui d'autre, quoi. En termes d'intrusion.
Le fait qu'une personne soit manifestement trans ne vous autorise pas, après 5 minutes de conversation, à lui demander ce qu'elle a entre les jambes, si elle compte se faire opérer ou si elle prend des hormones. Sauf peut-être si vous êtes du genre, à, après avoir échangé trois phrases, à demander à un homme cisgenre, donc un homme bio, comme on peut dire, la taille de son pénis, ou à une femme bio si elle prend la pilule. Sinon, considérez que c'est ce que la personne a entre les jambes. Sinon, considérez que ce que la personne a entre les jambes ne concerne qu'elle.
Et oui, c'est des questions d'intimité et voilà, cette intrusion, elle n'a pas lieu d'être forcément si on n'est pas intime.
Bah c'est vrai que tu t'imagines rencontrer, je sais pas. En fait, faut. Moi, je voilà, garçon biologique, tout ça, PD certes, mais en même temps, j'imagine de demander à. J'essaie de déplacer le problème pour me faire une bonne idée de. Tu rencontres la mamie de je sais pas qui et t'es pas trop sûr et tu vas lui dire mais du coup, ça fait longtemps que vous êtes ménopausé. C'est clair que ça se fait pas. Du coup, en fait, pourquoi est-ce que tu demanderais à n'importe qui d'autre mais du coup, tu as des pertes blanches en ce moment. Est-ce qu'elles sont malodorantes? Enfin, essayer de déplacer le problème et juste de mettre ça à un niveau qui peut être... ça se fait pas, quoi.
Et c'est vrai que ces intrusions-là, mais aussi dans le... est-ce que t'es opéré? Est-ce que t'es... Enfin, oui, du coup, ces questions-là qui sont des questions techniques parce que peut-être que si les transitions ne nous concernent pas, nous, ça crée des espèces de curiosité, là, mais du coup, de l'information, il y en a. On n'a pas besoin de rentrer dans l'intimité des gens à leur demander des choses sous prétexte que... Voilà. Et une troisième partie de ce texte, on vous mettra le lien hein, si vous voulez aller plus loin et lire l'intégralité de ce texte, mais qui parlait un petit peu de comment aussi à des moments, quand on est cisgenre, cisexuel, qu'on vit pas ces réalités trans, on a un peu cette binarité là. Tiens, il y a des hommes, des femmes, et puis tout
alors,
est englobé
cisgenre,
comme
peut-être,
ça.
Peut-être pour redire cisgenre, c'est quand même, c'est peut-être réexpliqué. C'est qu'il y a le genre et il y a le sexe. Il y a une concordance.
Une concordance entre notre genre actuel et puis celui auquel on a été assigné à la naissance. Voilà. Donc, on n'a pas entamé de transition. Voilà.
Et du coup, le texte dit il n'y a pas que des hommes et des femmes. Si la majorité des trans se définissent hommes ou femmes, certaines se définissent aussi entre les deux genres, ni l'un ni l'autre. C'est aussi le cas de certaines personnes qui ne se considèrent pas trans pour autant. Essayez donc, dans la mesure du possible, d'éviter de parler des hommes et des femmes. Préférez le terme « personne ».
Et c'est vrai que ça, c'est important aussi dans l'exercice de ne pas présupposer que tout le monde va vivre cette situation d'être cisgenre, là, comme on l'expliquait. En fait, oui, cette binarité de genre et le homme-femme et cette présupposition que tout le monde est cisgenre, là, c'est un sacré nœud, parce que oui, c'est une des premières questions qu'on pose à c'est un garçon, une fille, nanana, enfin, ça a un tel poids social en effet, il y a un truc comme ça très globalisant, le langage est genré, et du coup, ça donne un peu une espèce d'impression, ça invisibilise complètement, en fait, de toute manière, le fait que des personnes vivent des réalités tout autres et ne peuvent pas se sentir concernées par un bonjour monsieur ou bonjour madame, très franc et très, très clair quand on arrive dans une boulangerie, par exemple, voilà.
Ouais, ça, on peut vous renvoyer à pas mal de textes, peut-être qu'on mettra des références, mais on sait que, voilà, on en a déjà un petit peu parlé, effectivement, il n'y a pas que des hommes et des femmes, il y a plein de personnes qui sont entre tout ça, qui ne veulent être ni homme ni femme. Et voilà. Et du coup, ces petits outils-là, écrits par une personne trans, c'est un moyen de savoir s'adresser aux gens de manière soft et respectueuse, en fait. Et voilà. Et malheureusement, effectivement, le langage, il est genré. Et le mieux, pour en subir le moins possible et faire le moins de mal, c'est de demander comment est-ce qu'on fait. Quand on ne sait pas, en fait, il faut demander.
Et en tout cas, pour aller plus loin aussi que ce texte-là, que je vous conseille vraiment aussi dans les suites des conseils qui puissent exister. Mais j'avais aussi envie de vous conseiller deux brochures pour aller un petit peu plus loin, et on mettra un petit peu des liens sur les sites qui sont liés à ces questions de quand on a des personnes qui vivent ces réalités d'être dans des moments de transition et dans dans des démarches trans. Une première brochure qui est éditée par l'association Chrysalide, qui est une association lyonnaise de personnes trans, faite pour et par des trans, et qui a édité une brochure à deux entrées sur les transidentités et les proches. Du coup, c'est une brochure où on peut la lire dans un sens si on est proche, ami, famille d'une personne qui est trans.
Et on la aussi, retourne en fait.
Et il voilà, y a le sens aussi de « Ah ben tiens, en tant que personne trans, c'est quoi les questionnements qui se posent de manière un peu récurrente avec ces entourages-là de « Tiens, comment on gère la relation à un conjoint, nanana, à une famille et nos enfants ?» Enfin, du coup,
moi, j'ai bien aimé le format de cette... j'aime bien le format de cette brochure parce qu'en fait... ça nous positionne vraiment, en fait. On sait quel côté on doit lire un peu automatiquement, si c'est nous qui sommes en démarche de transition, si on est trans ou pas, et si on est un proche. Et puis après, il y a toujours, toujours cette même curiosité de se dire « Ah, mais si je veux aller plus loin, en fait, c'est quoi les questions qui se posent si... Bon, ben voilà, moi, j'ai commencé par lire la partie proche, amis, tout ça. Et après, je me suis dit « Ah, mais c'est quand même... c'est quoi les questions que je devrais affronter si jamais je voulais faire une démarche de transition ?» Et j'aime bien ce format de devoir tourner la brochure parce que c'est vraiment physique. Et ça veut vraiment dire que quand on n'est pas trans, on n'a aucune notion de ce que c'est que de faire une démarche de transition. Je trouve que c'est vraiment bien foutu, quoi. Et du coup, deuxième brochure, peut-être ?
Ouais, c'est une deuxième brochure qui est assez récente, hein, qui est sortie il y a environ un an, de Julia Serrano, qui s'appelle « Le privilège cissexuel », et qui décrit aussi, comment... quand on vit pas des réalités trans, donc on est cissexuel ou cisgenre, et ben quelle pression en fait on met, et quelle cette histoire d'avoir des questions de privilège et de classe sociale, là oui, on a en fait on fait peser aussi un espèce de poids normatif là par plein de signes et de codes et de du féminin, du masculin, du coup c'est une brochure moi que je vous conseille aussi dans quelque chose de se remettre en question là, tiens, si on veut être soutien aussi de personnes trans, ben aussi ça passe par se remettre en question de quel poids on fait subir dans lié à la norme et tout ça.
Et ben moi je vais te la voler tout de suite cette brochure, je l'ai pas encore lue. Et en attendant que je lis cette magnifique brochure, on vous propose d'écouter un morceau de Max Rab, Kiss.
You don't have to be beautiful to turn me on. I just need your body, baby, from dusk till dawn. You don't need experience to turn me on. You just leave it all up to me. I'm gonna show you what it's all about. You don't have to be rich to be my girl. You don't have to be cool to rule my world. Ain't no particular sign I'm more compatible with. I just want your extra time and your kiss. Got to not talk dirty, baby, if you wanna impress me. You can't be too flirty, mama. I know how to undress me. I want to be your fantasy. Maybe you could be mine. You just leave it all up to me. We could have a good. You don't have to be rich to be my girl. You don't have to be. be cool to rule my world. Ain't no particular sign I'm more compatible with. I just want your extra time and your kiss.
Max Raab, Kiss, une version actuelle et néanmoins pseudo-berlinoise années 30 de ce dandy que Martine nous propose d'aller voir. Moi, je ne connais pas ce personnage et apparemment, il est complètement délicieux. Du coup, j'ai bien hâte d'aller encore me fatiguer les yeux sur Internet. moi j'avais juste alors j'ai pas grand chose à raconter là-dessus, mais je suis tombé en fait, vous savez comment des fois on va dans la maison de parents d'amis, tout ça, et on tombe sur Marie-Claire Maison. Et Marie-Claire Maison, c'est un summum, hein, la déco, tout ça. Et je tombe sur un article de Vanessa Lepage. Je vais être très cynique, hein, comme je peux l'être, en tout cas, voilà. 4 bonnes raisons de vieillir.
Bah, déjà le titre à la base, c'est intriguant.
J'adore le titre. Moi, j'adore les vieux, les vieilles, tout ça. Moi, j'ai hâte d'être plus vieux. Je suis déjà vieux, mais pas encore assez. Et je me dis, ah, c'est cool, un truc pour décomplexer un peu le fait de vieillir. Ça va être sympa et tout. Et Vanessa, elle m'a surpris beaucoup, beaucoup, parce que Vanessa, en fait, elle s'est un peu arrêtée en 1930 aussi, un peu comme voilà, les années folles, tout ça. Vanessa, elle n'a pas compris. Encore que quand on est grand-mère, c'est pas pour ça qu'on. C'est pas pour. Voilà. Bon, en fait, je vais vous lire les 4 bonnes raisons de vieillir pour elle. C'est du temps pour faire durer les choses. Exemple, les produits chimiques, pas question. Moi, j'évite que l'évier ne se bouche en y versant du marc de café, que les robinets ne s'entartrent grâce au vinaigre blanc. Deuxième bonne raison de vieillir, du temps pour faire le ménage. Je développe pas. Hein. Troisième bonne raison, du temps pour réussir en cuisine. Et la 4e bonne raison, du temps pour jardiner. Alors, magnifique, magnifique article de Vanessa, Marie-Claire Maison, mai-juin 2012, qui nous plonge directement. Moi, ça m'a rappelé vachement le livre de Benoît de Groulx, Ainsi soit-elle, où Benoît nous expliquait comment elle a fait ses humanités, comment elle a été éduquée en tant que petite fille à servir gentiment son mari, à faire bien attention à ce que tout se passe bien. Et alors là, Vanessa, qui n'est pas si vieille que ça, hein, je suis allé voir sa petite page Facebook. En fait, je pense qu'elle vit dans un autre monde, un monde parallèle, où en fait, elle ne doit jamais demander à son mari de nettoyer ses chaussettes ou de se faire son café, puisque c'est quand même son rôle à elle, il paraît. Vanessa, on te souhaite bien du plaisir. Vanessa la rétrograde. Moi, je suis tombé de ma chaise et en même temps, bon, voilà, je dois avouer que mon petit côté maniaque était tout à fait intéressé par les mille et un secrets des recettes de grand-mère et les autres sites internet qu'elle nous conseille. Du coup, il y a des trucs pas mal à savoir quand on est une personne qui fait un peu le ménage et des trucs de sa vie, comme tout le monde devrait le faire, garçon, fille, trans, voilà. Du coup, vous pouvez tous dire 4 bonnes raisons de vieillir avec diverses manières de l'interpréter. Et puis, peut-être que j'écrirai un petit mot à Vanessa, d'ailleurs,
oui,
sur Facebook.
Ouais,
hein, ça
ouais,
peut être sympa. Voilà, trêve de plaisanterie.
On va bientôt peut-être arrêter, ouais. Ça va bientôt être l'heure, mais on avait quand même envie de... Bah oui, on a une heure d'antenne, mais tu sais, c'est justement ça. C'est l'avant-dernière de Calibre de la saison, on reprendra en octobre.
Des grandes vacances.
Les grandes vacances. Et en plus, on reprendra sur une nouvelle formule, on vous le redira, l'équipe de la semaine prochaine vous le redira sûrement pour commencer à vous y préparer. Une nouvelle formule, Calibre, ce sera plus une fois par semaine.
Ça sera une mensuelle.
Sera une mensuelle.
On a envie de faire une mensuelle et puis on a envie que ce soit plus long aussi.
Alors, ce sera plus une heure, mais deux.
Voilà, deux heures par mois, ensemble, dans l'intimité du studio, à sortir nos aisselles.
Mais on sera plus que deux, on sera plein.
On sera plein, et on espère que ça va être foisonnant, ça va être plein de surprises. On a un peu envie d'aller chercher des témoignages de manière un peu diverse, de diversifier un peu les contenus et tout. Et c'est vrai que je pense que l'équipe de la semaine prochaine va peut-être développer un peu, mais on voulait juste avoir la primeur de vous dire ça. Calibre va changer de formule et on compte sur vous pour nous écrire parce qu'il change de formule, mais je pense qu'il y aura toujours, c'est sûr, il y aura toujours notre site internet. Il y aura toujours le email car-libre@poivron.org. Et le numéro de la radio ne va pas changer, je pense, hein, 04 76 09 09 09. Voilà. Et donc, je pense qu'on
va se quitter là-dessus.
On peut se dire à la semaine prochaine.
Greg, voilà.
Merci. Alors, Marty. Merci. Laura. Alice. Alice de retour du pays de la Teutonie. On est bien content de te retrouver, Alice. C'était Calibre sur Radio Kaleidoscope 96.9 FM à Grenoble. On se retrouve la semaine prochaine. Bye bye.
Salut.
Corps, amour, sexualité. Calibre, une émission en direct sur Radio Kaleidoscope.
Calibre, une antenne libre où poser des questions sans tabou ni jugement.
Tous les jeudis, de 20h à 21h, appelez-nous au 04 76 09 09 09.